Marc Reignez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Vega IM. On va parler avec vous de marché, bien entendu, ce post-Brexit. On a vu ce qui s'est passé vendredi. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui quand on a ce type de choc sur les marchés? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on réagit?
Alors, en tant qu'investisseur, je crois qu'il ne faut pas se laisser trop bousculer par tout ça. On est revenu sur les marchés d'actions européennes au niveau où on était il y a 10 jours à peu près, donc avant ce vote. Et je pense que pour l'instant, la chose la plus urgente à faire, c'est déjà d'attendre de voir où les marchés nous emmènent et comment ils valorisent cette très très mauvaise nouvelle. Pour l'instant, je pense qu'on va se diriger à nouveau vers les supports du début d'année, du mois de février, où le CAC 40, on s'en souvient, avait testé à l'époque les niveaux de 3900. J'imagine que le marché va vouloir retester un peu la force et la solidité de ces niveaux-là. Et donc on attend de voir comment ça se passe à ce moment-là.
Alors on voit des secteurs tout de suite qui ont été touchés en priorité. On pense au secteur bancaire. Alors bien sûr les banques britanniques, mais aussi des banques
Mais
françaises.
européenne également, oui.
Donc là c'est du concret,
Je crois que
c'est
ça illustre une fois de plus le fait qu'il y a action et action. C'est quelque chose qu'on essaie de porter depuis un certain nombre d'années, mais on voit que des valeurs comme Pernod Ricard ont perdu 1%, 1,5%, Essilor 3%. Enfin, on voit qu'il y a quand même toute une catégorie de belles valeurs, de croissance solide, avec des bonnes barrières à l'entrée, qui, même dans ces journées-là, résistent pas si mal. Donc c'était une dispersion à la fois sectorielle et par valeur de la baisse, qui était très très forte, hein. On a vu Nestlé monter dans la séance de vendredi, par exemple. Et face à ça, effectivement, toutes les valeurs un petit peu cycliques qui sont bien aimées par les gérants value, là je pense évidemment aux banques, mais aussi à l'automobile, aux utilities, etc., aux télécoms, etc., qui restent des valeurs aujourd'hui très spéculatives. Et je pense que déjà, si on n'a pas dans son portefeuille une présence trop importante de ces secteurs-là, de ces valeurs-là, eh bien on a une bien meilleure résilience au choc. Alors évidemment, on n'est pas complètement exempt de baisse complètement, mais voilà, je pense que il faut vraiment rester dans le stock picking sur ces très très belles valeurs et sur ces secteurs qui tiennent bien, qui sont la santé, l'alimentation, la consommation de base, le luxe, la cosmétique, etc.
Alors, on a eu, ce Brexit est arrivé au même moment, enfin, juste après que la Réserve fédérale américaine décide de reporter sa hausse de
Ouais.
taux. Donc, on a un contexte quand même global où on voit que les taux, ça va, la remontée des taux, c'est pas pour tout de suite,
Là,
loin de là.
d'autant plus avec ce qui se passe
On
là.
décale à nouveau sur
Ouais.
presque quasiment l'année prochaine.
C'est parti pour, parce que déjà on sentait quand même une Madame Yellen très prudente et très très averse à remonter ses taux. Et là, évidemment, ce qui s'est passé avec le Brexit va rendre la hausse qu'on pensait éventuellement se faire en juillet certainement très très improbable pour le coup. Les marchés l'ont déjà complètement évacué de leur scénario. Ce qui est certain, c'est que ce qui s'est passé là, ça montre quand même la responsabilité énorme de la classe politique. On voit une classe politique britannique qui s'est totalement couverte de ridicule dans cette affaire, puisqu'elle a suscité ce vote populaire sans pédagogie, sans vraiment expliquer au peuple britannique les tenants et les aboutissants. Et finalement, après ce résultat, eh bien, on voit aucun politique anglais porter finalement le succès de ce Brexit. Chacun paraît totalement dépassé par les événements. Ceux qui l'ont soutenu, comme Cameron, sont amenés à démissionner parce que c'est une baffe. Ceux qui l'ont promu, que ce soit à gauche ou à droite, n'en tirent aucun bénéfice politique. On voit qu'ils sont obligés en rase campagne de reconnaître que bah, finalement, c'est quand même pas une très bonne nouvelle, à minima pour l'économie britannique. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pédagogie à faire. C'est vrai pour nous, gérants, vis-à-vis de nos clients, leur expliquer voilà, le plus possible le fonctionnement des marchés. Mais c'est vrai aussi pour la classe politique, expliquer les enjeux, tout l'intérêt de cette Europe dans un monde de superpuissance où déjà tout se joue entre les États-Unis et la Chine. Alors si en plus nous, Européens, y allons en ordre divisé, chacun avec nos petites troupes, là il est clair qu'on sera totalement laminés.
Alors, on a vu pour les investisseurs, en même temps, il y a toujours cette même question de rendement, d'aller chercher du rendement.
Oui.
On a vu ce qui se passe sur les marchés obligataires, on voit ce qui se passe sur le Bund allemand, mais sur les actions, on se dit il y a quand même, il va y avoir plus de volatilité, plus de risques. Oui. Ils sont coincés quand même, ils sont un peu perdus.
C'est très très compliqué, on le voit bien, parce que même pour nous gérants, on avait autrefois quand même ce moteur de la poche taux qui donnait quand même bon an mal an un rendement de 3 à 4%. Donc même si ça ne faisait pas tout, bien sûr, la part action avait un impact important sur la performance finale des portefeuilles et sur leur rendement, mais on avait au moins cette poche sur laquelle on pouvait s'appuyer pour bâtir quand même quelque chose, et après, on ajustait la part action selon la version risque du client. Là, aujourd'hui, on n'a plus rien, c'est-à-dire que, effectivement, la poche taux ne couvre pas les frais, donc, eh bien, on est, ni la fiscalité d'ailleurs, et donc on est obligé quand même d'aller un peu sur les actions en dépit de leur volatilité, mais c'est là que je reviens à ce que je disais au départ de l'interview, c'est-à-dire il y a actions et actions, donc qu'est-ce qu'il faut acheter finalement des marchés qui baissent comme ça? Alors les très belles valeurs comme Pernod et Sylor n'ont pas baissé, donc là il n'y a pas d'affaire particulière à faire dessus, si ce n'est à garder celles qu'on a en portefeuille. Quelles sont les valeurs de qualité finalement qui ont bien baissé dans cette crise? Eh bien, des valeurs industrielles cycliques qui souffrent dans ces cas-là. Et là, je pense par exemple à des valeurs comme Valeo, qui ont beaucoup souffert vendredi, qui ont perdu plus de 10%. Je pense à du Schneider, à du Saint-Gobain, qui sont des valeurs de grande qualité, mais qui sont, par leur cyclicité, ont été bien impactées par la baisse. Et celles-là, effectivement, il va y avoir des affaires à faire sur ces valeurs-là.
Alors, on se dit, on n'est même pas encore au début de l'été, avec ce climat en France, on en est loin. Oui. Sur les marchés, c'est un peu la même chose. On se dit, l'été, c'est toujours compliqué. Oui. Est-ce qu'il faut attendre pour investir? Est-ce qu'il faut, parce qu'on a souvent des mois d'août qui sont un peu compliqués. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, finalement?
Si vous voulez, du point de vue économique, les niveaux actuels sont déjà une opportunité. Parce que je pense quand même que l'impact du Brexit sur les résultats des entreprises européennes dans les 6 mois, 1 an qui viennent ne vont pas être percutées à ce point par cette décision. En revanche, c'est vrai que l'impact politique et macroéconomique de ce tremblement de terre qu'est le Brexit, ça on ne l'a pas encore vraiment touché du doigt, on ne l'a pas encore mesuré. Et si vous voulez, moi j'ai envie, avant de revenir sur les marchés, de voir un peu comment et où ils trouvent un point d'équilibre par rapport à ce qui s'est passé. Cette journée de vendredi, évidemment, a été très importante, 8% de baisse en France, 8,5% en Europe, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'on se limite à ça pour l'instant. Je pense que le marché a été quand même profondément surpris, profondément déstabilisé par ce qui s'est passé. Et donc, il faut voir comment maintenant, quel appui, finalement, ils trouvent. Et ça, les séances qui viennent vont nous le dire.
Ça veut dire garder toujours une poche de cash si on peut?
De toute façon, il faut toujours garder une poche de cash. Ça, c'est une évidence absolue parce qu'on voit bien qu'on est à l'abri absolument de rien, y compris de décisions collectives un peu suicidaires. Hein, quand on regarde cette population anglaise qui a voté le Brexit, on sent une population désarçonnée, qui est un peu écartée finalement du succès économique du Royaume-Uni, parce que quand même, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'est pas là en Grèce, hein, on est dans un des pays en Europe, dans l'Union européenne, qui fonctionnait le mieux du point de vue économique. Simplement, on voit bien que toute une partie de la population se sent exclue, je dirais, de ce miracle économique, en tout cas de ce mieux, et c'est vraiment ça qu'il va falloir gérer en Europe, rassurer quand même les classes moyennes, qui sont le fondement de la démocratie, sur le fait qu'elles sont embarquées par le projet européen. Et ça,
c'est un sacré défi. Travail. Merci Marc Riez.
Merci.